Bonsoir.
On est deux.
Donc le matériel protecteur propose le matériel de
tri.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, sur tous les fronts de l'état d'urgence, dans tous les sons et dans tous les sens.
Depuis le studio 511, garanti sans amiante de la Maison de la Radio, une émission réalisée en direct et en toute liberté par Jérôme Chélius, assisté de Lucille Valérie avec à la technique aujourd'hui Raphaël Rousseau.
Cette semaine, on vous emmène au Salon de la Sécurité Intérieure, Millipol. Découvrirez les toutes dernières nouveautés en matière d'instruments contondants et de surveillance numérique. Les policiers du monde entier se réjouissent. Puis nous irons au cinéma pour éveiller notre sens critique avec le documentaire de Pierre Pézra, Les Sentinelles. Amiante, pesticides, combien de temps encore va-t-on se laisser empoisonner ?
Il y a plein de gens que vous allez voir qui vont dire « Écoutez, on est là, mais on ne peut pas vous dire ce qu'on fait. Voilà. » Bon, ça vous dit une part de ce qu'ils font. Ouais.
Ça, quand je pose des questions, on ne répond pas trop généralement. C'est normal, vous pensez ?
Je commente. Il faut arriver à ce que les crimes industriels cessent. Et pour arriver à ce que les crimes industriels cessent, il faut qu'il y en ait qui soient punis. Et s'ils ne sont pas punis et qu'ils ne s'expliquent pas, eh ben ça pourra continuer.
Vous voulez gagner un drone ? C'est possible si vous travaillez chez Amazon à l'entrepôt de Lowen Planck dans le Nord. Il suffit de dénoncer un de vos collègues qui aurait commis une faute, drôle de façon d'envisager l'inspection du travail. Mais vous gagnerez un drone de divertissement, enfin on l'espère, pas un drone de surveillance pour être encore plus zélé, ou même un drone anti-drone, comme ceux qu'on trouve au Millipol, le salon de la sécurité intérieure qui se tenait cette semaine à Villepinte et où Guive nous emmènera. Gérard Collomb, notre ministère de l'Intérieur, y est allé aussi pour voir le matériel dernier cri.
Tout ce que nous allons faire, à la fois équiper notre police avec des tablettes, avec des smartphones dans nos grandes villes. Donc je crois que c'est cela l'avenir, être performant technologiquement pour que nos policiers et nos gendarmes soient les policiers et les gendarmes connectés.
Eh bien oui, la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui remplace l'état d'urgence, a été promulguée le 30 octobre dernier. Il faut s'équiper, être au top 2.0, une police connectée.
Oui, mais attention, une police peut être aussitôt piratée.
Rabat-joie avare. Par contre, c'est vrai qu'avec les ordonnances réformant le code du travail, c'est pas Noël pour les lanceurs d'alerte qui ont plutôt intérêt à continuer de s'inquiéter.
Et des lanceurs d'alerte, justement, on va en rencontrer dans le documentaire de Pierre Pézra, Les Sentinelles, victimes de l'amiante ou intoxiquées aux pesticides. Ils se battent pour que les crimes industriels cessent.
Moins de moyens pour l'inspection du travail et de droits pour les lanceurs d'alerte, mais plus de matériel sophistiqué pour le maintien de l'ordre, c'est à l'ordre du jour.
Ouais, et nous on va aller au Millipol. Et le Millipol, c'est un peu le marronnier journalistique. Tous les deux ans, on a le choix. Faire un inventaire à la pervers prévert de tous les instruments contondants, percussifs, perforants, présentés à des messieurs qui sont à peu près le même regard devant des fusils d'assaut que les papilles libidineux de la semaine dernière devant des films porno. Ou bien, on peut essayer de s'intéresser à tous ces autres stands, de plus en plus nombreux, qui proposent discrètement les dernières nouveautés en matière de technologie de leur surveillance. Car il y a toujours des bonnes vieilles filatures à l'ancienne, de bons vieux barbelés bien tranchants, mais avec l'intelligence artificielle et les algorithmes prédictifs, les nouvelles armes de la sécurité intérieure sont avant tout numériques. Alors jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court et qui fait froid dans le dos, empoison de masse ou surveillance de NAS.
Alors on va se rendre maintenant au salon Millipol, pas très loin de chez vous, c'est à Villepinte, c'est tout près de Paris.
Millipol Paris 2017. Raf Military Textile. The Turkish company based in Istanbul.
Les textiles militaires Ruff basés à Istanbul sont heureux d'annoncer à ses clients leur présence au salon international, le grand rendez-vous de la sécurité intérieure. Ne ratez pas cette formidable opportunité et nos offres exceptionnelles.
Guy Vanctil.
Attention.
Charlotte Perry.
À droite.
Antoine Chao.
Armé, gilet pare-balles.
Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Confronting terrorism in Hawaii is becoming increasingly
difficult. Hi, sorry to interrupt you. I work for the French Public Radio.
We're not speaking to journalists, I'm sorry.
No journalists.
No, not at all. Thank you.
You work at Verint?
Yes.
Hi.
Nice meeting
you. Give Radio France.
Yes. We do not appear on radio or television.
Not at all?
Not at all. Because we usually don't speak with the press, nothing. Yeah. Sorry. Thank you.
Bonjour.
Pardon?
Vous voulez pas savoir ce que je veux savoir?
Vous êtes de la presse?
Oui. Et
malheureusement, nous sommes. C'est pas la manière avec laquelle nous faisons la pub à notre société.
Bon, alors, pas de questions. Merci.
Merci.
Mais dès qu'on pose des questions, ou dès qu'on veut s'intéresser un peu trop aux technologies de l'information, à l'interception des données, tout de suite, les commerciaux sont moins bavards. Il y a des consignes. On ne parle pas à la presse de tout ce qu'on est capable d'intercepter. Comme données, comme informations, que ça soit sur le téléphone portable, sur les réseaux sociaux. Donc, je me fais pas mal rembourrer, beaucoup plus que sur les stands où on propose des gros pistolets, des armes, des gilets pare-balles, où là, on est toujours très fiers et très contents de montrer ces nouveaux matériels, ces nouveaux joujoux, ici, à Millipol.
C'est un salon très attendu chaque année par les professionnels de la sécurité. Et dans un contexte de menaces terroristes très élevé, chaque innovation est susceptible d'intéresser les autorités. Car la sécurité est devenue un enjeu économique majeur pour les particuliers comme pour les autorités. Son marché a progressé de 4,2% en France en 2016 et atteint désormais un chiffre d'affaires de plus de 26 milliards d'euros.
Bonjour. Là, on est sur le stand du pavillon chinois.
Nous sommes une entreprise située à Pékin, High Technique, spéciale pour robots, pour l'armée chinoise.
Vous êtes fournisseur de l'armée chinoise.
We mainly sell these products to China's police. Some technologies from the military.
C'est une adaptation de technologies militaires pour la police chinoise.
Yes.
Et alors, c'est quoi derrière vous là? Je vois d'autres appareils. C'est des espèces de pinces, des menottes, c'est ça? On voit des policiers qui sont en train de menotter quelqu'un. Il y a écrit « Snatch Proof Capturing Riot Button » et « Spike Electric Shock Riot Fork ». Et ça fait quoi? Parce que ici, je vois 270 à 350 volts, 4000 milliampères. Et ça électrocute et ça attrape en même temps? C'est...
Well, it's against very bad guys.
Pour arrêter les criminels.
Oh, it's to stop them.
Donc ça agrippe et ça électrocute.
Yes.
Non, mais je me suis à ça parce que je crois qu'il y a des produits qui ne peuvent pas être importés en Europe. D'après Amnesty International, qui dit que ces produits-ci sont interdits sur le marché européen par une directive européenne.
I don't know.
Bah, let me check. Attends, je crois que I received a mail. Newsflash qui vient de tomber aujourd'hui d'Amnesty International. Discover gruesome illegal torture equipment for sale in Paris. Ça veut dire Amnesty découvre des équipements de torture illégaux qui sont mis à la vente ici à Paris. Des équipements de torture qui ont été interdits en Europe depuis 2006. Ils disent Electric Ankle Cuffs, Spiked Electric Shock Riot Fork. C'est exactement le produit que vous avez là. C'est des produits qui ne sont pas autorisés, ne serait-ce qu'à l'exposition depuis une directive européenne de 2016 en France. Mais pour l'instant, vous n'avez pas été inquiété.
Celui-ci, on va ramener. C'est juste une photo, on va ramener ça.
Ah, vous n'avez pas ramené, ouais.
On va ramener, on va exporter ici. On juste prend une photo, on a en Chine, c'est
ah.
Ça. C'est ça, oui. On n'a pas le produit électricité ici.
Ah oui, on n'a pas la pince électrocutante. Dommage.
Oui, c'est dommage.
Hein?
C'est dommage.
Voilà, vous avez fait un business en moins à cause de la loi. Too bad.
On peut commander sur Internet.
Hein?
On peut commander sur Internet.
Ah bon, bah, ça va alors. Parfait. Merci. Et bon courage alors avec vos produits. Au revoir.
Émeric Éloin, je suis responsable de plaidoyer sur les armes et la justice internationale à Amnesty International France.
Attention, à droite, armée, gilet pare-balles.
C'est un salon où les polices du monde entier viennent faire leurs courses. Ici, on trouve de tout, armes, véhicules, munitions. Cette année, il y a 1010 exposants, enfin 1009 depuis hier. Car ce stand a été fermé par un huissier. À l'intérieur... Le matériel vendu était à peine croyable.
Alors, Émeric Éluin, je vous retrouve à la sortie du Millipol. Amnesty International a fait un communiqué.
Oui,
tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette brave société que je suis allé voir, Origin Dynamics, du pavillon chinois, alors, ce salon Millipol?
Il existe un certain nombre de réglementations, et notamment il existe un règlement adopté par l'Union européenne qui vise à interdire le commerce des équipements de torture.
De torture.
Lors de l'édition précédente de Millipol, nous avions constaté déjà que des produits interdits étaient présents sur le salon. C'est fort de ce précédent que nous nous sommes dit, allons-y et allons voir ce qui se passe. Et là...
Tout allait bien, bien sûr. Tout était rangé, arrangé.
Là, on tombe un peu des nues parce qu'il y a un grand nombre quand même d'entreprises, notamment chinoises, qui sont présentes avec des catalogues. Et quand vous feuilletez les catalogues, vous tombez par hasard sur un dispositif de chaîne à entrave lestée que l'on met en général au pied et qui sont destinés à empêcher les individus de se mouvoir, de bouger. Il s'agit de les entraver.
Qui ressemble un peu à ce qu'avait au temps de l'esclavage.
Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Et des matraques à pointe. Sur une matraque véritablement à pointe, donc c'est une matraque avec...
Un peu la Mad Max, quoi.
Exactement, et ça ne sert qu'à une chose. Frapper un individu, déchirer sa chair, le blesser, etc.
Exhibé aux yeux de tous, ce garrot à pulsion électrique. Il s'attache à la cuisse et envoie des décharges. Proposé également dans leur catalogue, ce bracelet et cette pince électrique, ou encore cette fourche anti-émeute à pointe.
C'est ça que j'ai vu, attendez, je retrouve le nom... Alors moi, j'ai vu ça là, l'affiche présentait un Spiked Electric Shock Riot Fork.
Oui, alors il y a ça aussi.
Ça veut dire quoi?
Alors ce type d'équipement, pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est? C'est imaginer un grand manche qui fait un peu plus d'un mètre avec des pinces qui sont rétractables, qui ne sert qu'à une chose, immobiliser quelqu'un au sol, et en plus, en ayant la capacité de lui infliger des décharges électriques.
C'est une espèce de pince cloutée, c'est électrocutante.
Électrocutante, voilà, elle envoie des décharges électriques, c'est absolument incroyable.
Une espèce de petite gégène portative.
Oui, en fait, oui, c'est ça. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Oui. Et donc ça, ça fait partie des équipements de torture. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, des entreprises fassent la promotion de ce type d'équipement sur le sol français et donc sur le sol de l'Union européenne, alors que c'est formellement interdit.
Un salon inauguré par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur.
Tout à fait. Ça revient à faciliter le fait que des gens puissent pratiquer la torture. Donc encore une fois, on est dans une situation un peu schizophrénique où il y a les paroles et puis il y a les actes.
L'année dernière, Millipol avait déjà été épinglé pour des faits similaires.
Aujourd'hui, on a eu un échange avec l'organisme qui chapeaute Millipol. Et donc, on a été informé du fait que le stand qui présentait des produits physiquement interdits serait fermé. Et que d'autres entreprises que nous avions mis en avant, avec les catalogues qu'on leur a présentés, feraient l'objet de mesures de renforcement en termes de contrôle. Maintenant,
ça va pas arrêter la torture.
Ça va pas arrêter la torture. Mais c'est une première action. Est-ce que ça va aller au-delà de la fermeture d'un stand ou de l'éventuelle saisine de catalogue? Est-ce qu'il y aura une procédure juridique engagée? Millipol pourrait éventuellement.
Oui, parce que c'est une infraction caractérisée.
À leur règlement, ils ont un règlement qui visiblement n'a pas été respecté. Donc, il faut essayer de comprendre où se situe le problème pour éviter que.
Alors moi, ils sont sortis en me disant, en m'expliquant au stand en question, ils m'ont expliqué que c'était juste l'affiche et qu'on n'avait pas le produit. Mais rassurez-vous, le produit, vous pouvez le commander sur Internet.
C'est un cynisme absolu, alors, parce que ça n'aurait pas se produire. Et la mise à disposition d'équipements servant à la torture va constituer un vrai enjeu. Il faut que cette prise de conscience ait lieu aussi, quoi. Et il faut aussi établir le combat sur Internet, quoi.
Alors, si nous avons été un peu rattrapés par l'actualité avec le scandale de cet épicier pour tortionnaire, si le stand en question a bien été fermé sous contrôle du CIE, et si la commissaire européenne Cecilia Malmström a dénoncé cette violation flagrante du droit de l'UE tout simplement atroce, pendant ce temps-là, dans les travées du Salon de la Sécurité, c'était business as usual. Un marché mondial de près de 550 milliards d'euros qui fait saliver beaucoup de sociétés privées. Et en particulier celles qui travaillent avec l'intelligence artificielle et les algorithmes prédictifs qui permettent le traçage de tout un chacun dans la vraie vie vidéo surveillée tout autant que dans l'intimité virtuelle de nos réseaux sociaux. Car vos comptes Facebook, Twitter, tout autant que vos objets connectés, sont de véritables mines d'informations sensibles où les professionnels du renseignement n'ont plus qu'à se servir. D'autant qu'en France, une indiscrétion révélée par le site Next Impact nous a appris que les boîtes noires numériques du renseignement français étaient entrées en fonction discrètement il y a quelques semaines. Mais si vous voulez en savoir plus que tout ça, il faut toujours poser quelques questions et un peu insister.
I don't think we can.
Can you check if you can or not?
But could you come back tomorrow and we will have an answer for you? Sorry about that.
Alors eux, ils ne veulent pas parler dans un micro. Pour les stands, ça va très vite. Les stands où on vous présente des pistolets, des drones, vous êtes immédiatement reçus. Mais dès qu'on va sur des technologies un peu plus sensibles, comme les écoutes, les interceptions de données, des passoires que sont devenues nos téléphones portables, là, tout de suite, on n'a pas trop envie de parler dans le micro. On reste entre clients. Are people becoming obsolete? A giant electronic brain is starting to understand the universe. We're up against something we can't fight until we can figure it out. Network social.
Hello, I'm Givanti from Radio France.
Alors, nous voici devant le nom du stand Leo Consulting.
That is correct, sir, yes. My name is James.
James.
Currently resided in the island of Cyprus. We've come to Millipol now to try and introduce a new system that we have. It is a social media bot.
Je travaille pour cette société qui est basée à Chypre et on est venu ici au Millipol parce qu'on propose un dispositif qui travaille sur les réseaux sociaux. Et oui, et je vois devant vous Government Social Media Warfare System for Facebook and Twitter. Alors expliquez-moi ça.
And it's designed to find targets automatically and monitor them.
C'est pour trouver des cibles automatiquement et les suivre.
So the focus is on the usage of the effects of social media and operational intelligence perspective.
C'est vraiment d'utiliser les médias sociaux, là je vois Facebook et Twitter, dans une perspective de renseignement.
You know, there's 974 million existing Twitter accounts.
974 millions de comptes Twitter qui existent.
And on average, there's 500 million tweets. Sent per day.
Ça fait 500 millions de tweets envoyés par jour. Alors là-dedans, il y a le monsieur qui monte sa photo de vacances, l'émission de radio qui fait sa promotion, comme un bruit qui court, et vous, vous cherchez autre chose.
So they are the bullets, and we provide the body armor.
Eux, ce sont les balles, et nous, on est là pour fournir le gilet pare-balles.
Yeah, digital body armor, yes. So technically, it's a cyber weapon system.
Oui, c'est vraiment une arme cyber, c'est-à-dire c'est un gilet pare-balles digital.
So our aim is to obviously install this software within governments, officials, so they then can keep track of what is happening. They can also then identify where these people are.
C'est pour ça qu'on propose ce logiciel au gouvernement pour qu'ils puissent repérer tous ces gens et ce qu'ils peuvent dire et surtout les retrouver et savoir où ils sont. Moi, je pensais que sur les réseaux sociaux, on était tranquille, caché derrière l'anonymat.
That's incorrect, unfortunately.
C'est faux. Vous allez plus loin, vous. Il y a écrit que ça arrive à combattre les systèmes d'encryption et de codage comme WhatsApp, Telegram et Viber. Parce que moi, j'ai toujours lu que, par exemple, Telegram était utilisé par les djihadistes. Et vous, vous arrivez à passer outre les protections.
Again, we can't go into so much detail on that one.
Ah, on ne peut pas donner de détails.
It's a government software.
Parce que c'est un logiciel gouvernemental. Donc, pas de détails.
So it's not for the public.
C'est pas pour le public.
I mean, if you're an innocent person,
si je suis quelqu'un d'innocent, yes,
and you've got nothing to hide and you're doing nothing wrong,
et si je n'ai rien à cacher, que je fais rien de mal,
then you have no fear.
Je vais pas avoir peur, d'accord.
But for those that are doing harm or doing wrong or abusing the system,
et ceux qui profitent du système ou qui font du mal ou qui font des choses illégales,
then they should expect to knock on the door.
Ils devraient s'attendre à ce qu'on vienne frapper à leur porte. Et vous avez des clients connus? And you can name some of your clients? Or...
No, sir, we cannot. Obvious reasons.
Pour des raisons évidentes, on ne peut pas.
But you are safe. You are safe.
Mais il ne faut pas qu'on s'inquiète. On est en sécurité.
Thank you.
Thank you very much.
Take care.
Alors, nous voici devant le stand A062 BrainChip.
Donc, très bien, donc, je m'appelle Hung Deluy, je dirige BrainChip France, basé à Toulouse. Alors, la société BrainChip, nous développons des solutions logicielles et matérielles d'intelligence artificielle. En fait, nous recréons ce qu'on appelle un réseau de neurones impulsionnels. C'est une technologie qui est capable d'apprendre, comme notre cerveau, des motifs, des formes, et après de les retrouver soit dans les photos ou dans des vidéos, que ce soit en direct ou en analyse pour des besoins d'enquête.
D'accord.
Dans un cas de vol de collier à Toulouse, on a retrouvé le suspect parce que sur son t-shirt, il avait un motif vraiment particulier. On a entré dans le système des vidéos du transport en commun. On a pu retrouver le suspect sous un angle pour pouvoir l'appréhender.
En traitant les images du tram,
du métro, voir caméra de la ville.
Et le suivre jusqu'à chez lui.
Sous condition, encore une fois, qu'il y ait une caméra. À l'heure d'aujourd'hui, toutes nos rues ne sont pas couvertes de caméras. Heureusement, enfin, disons que...
c'est voilà. C'est la question, heureusement voilà, ou pas heureusement
Alors, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est un autre débat. Hein, là,
c'est ça, on peut imaginer dans 10 ans, puisqu'il y aura forcément plus de caméras de surveillance et plus de logiciels d'intelligence artificielle comme le vôtre, BrainChip, que voilà, dans des rues où toutes les caméras sont mises en réseau, avec une intelligence artificielle qui potentiellement peut voir qui fait quoi ou en tout cas qui se comporte mal.
Absolument, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle.
C'est pas encore une dystopie.
disons, il y a beaucoup de choses qui se disent et peu de choses qui sont vraiment réalistes. Ouais. Voilà. Maintenant, si une dictature utilise notre système pour trouver des opposants, malheureusement, on n'y peut rien. Enfin, c'est compliqué. Il faut savoir quel est le degré de liberté, entre guillemets, ou de privé que je peux céder pour ma recherche de sécurité. Encore une fois, je vous dis, la caméra, l'image, est finalement moins avancée en termes de suivi de traces que ce que vous laissez en traces numériques, les sites que vous allez, le téléphone, tous les échanges que vous avez.
Justement, à ce propos, il y a des gars là à côté qui proposent des logiciels qui permettent de traquer tout ce qui se passe dans les messageries, y compris les messageries cryptées, tous les réseaux sociaux, qui font du data mining, comme ils appellent ça, de la récupération de données, et on est à poil sur tous ces réseaux.
Ben oui, c'est pour ça à chacun de savoir aussi ce que nous laissons comme traces numériques.
Vous, par exemple, vous avez...
Je suis très peu à réseau social. Mais non, je fais attention à ce que...
Fais attention à ce qu'on laisse passer. Quoi. Ici, absolument. On connaît, on sait.
Oui. Ce qui me gêne le plus, finalement, c'est mes traces numériques sur Internet. Là où je vais, je trouve que de plus en plus, les publicités, tout ça, c'est de plus en plus avancé. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle s'applique aussi dans ce domaine-là. Hein. On parle de data et plutôt que d'image. De ce que vous faites, votre navigation, mais...
Et Facebook, c'est voilà. Plus sur vous que beaucoup des gens qui vous connaissent.
Ça. C'est ça. Là, je trouve très intrusif. Mais voilà, je...
La technologie est là, maintenant, il faut vite réfléchir à ce qu'on en fait.
Oui, et si on ne perd pas de vue, toujours de mettre l'humain au centre.
Merci.
Voilà.
Merci, bonne journée. We need to protect the protectors.
Parce qu'il faut protéger ceux qui protègent.
Data processing. Data processing.
Alors, stand C009 Aquilae, la start-up qui voit tout. C'est comme ça que c'est présenté. Bonjour.
C'est ça, bonjour. Donc nous, la particularité de ce qu'on propose, c'est qu'on est capable de fournir une intelligence artificielle qu'on va venir placer dans un réseau de caméras existant ou non. On est vraiment capable de se plugger dans n'importe quel type de système, n'importe quel type de caméra aussi.
Parce qu'il y en a partout des caméras de surveillance, en tout cas il y en a de plus en plus.
Juste, il y en a partout, il y en a déjà énormément d'installés. Donc on se rend compte derrière un mur d'images qu'une personne devant 6 ou 7 écrans, on s'est rendu compte, c'est une étude scientifique qui a été réalisée, on s'est rendu compte qu'en 20-25 minutes, la concentration n'est plus du tout la même comme au début. Et donc, ce qu'on propose pour remédier à ça, c'est de remplacer plus ou moins la personne par une intelligence artificielle qui va fonctionner H24. Au bout de 20 minutes, il ne va pas perdre de concentration.
Alors, est-ce que ça risque pas de, ça va pas beaucoup nous aider, ça, pour créer des emplois, tout ça?
Ça
va pas faire du chômage, ça, chez les agents de sécurité?
Forcément, oui, mais voilà, nous, on est là pour venir proposer voilà, une sécurité fiable et un bon chiffre de détection. Je vais vous sortir une plaquette. On propose 6 différents types de détection.
Je veux bien voir, ouais, c'est quoi. Est-ce que ça te paraît un peu flippant? Un monde où justement il y aurait des caméras avec des intelligences artificielles qui nous filtrent et qui nous filment en permanence.
Oui, bien sûr, des caméras, il y en a de plus en plus, mais voilà, j'essaye de me convaincre moi-même en tant que l'équipe que je ne viens pas atteindre à la vie privée des gens, puisque tout ce que je me contente de faire, j'ai envie de dire entre guillemets, je me contente, c'est de surveiller un site localisé, très localisé.
Mais comme il y a des caméras partout, votre algorithme, est-ce que ça peut intéresser des...
Ouais, enfin, je travaille pas dans ce milieu-là. Pour... Voilà, c'est pas trop mon sujet.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir. Nous voici sur le stand de TEB, Intelligence Artificielle et Reconnaissance Faciale au service de la sécurité intérieure. Alors nous voici sur le stand de Fonexia.
Bonjour, bonjour. Fonexia is a company based in Czech Republic.
Fonexia est une société tchèque.
Olivier Vitebrot et moi je suis le responsable technique de la solution Shadline. C'est une société complètement française.
And basically we have a wide experience with speech technologies.
Et nous on travaille essentiellement sur les technologies de la parole.
Speech analytics, speech to text transcription.
La transcription de fichiers son, de conversations en texte. Et ils viennent d'où ces fichiers sons?
Our technologies are optimized for phone talks, phone audios, GSM networks, satellite intercepted audios.
Notre technologie marche pour toutes les conversations téléphoniques qui soient interceptées par téléphone, par satellite. C'est-à-dire que en temps réel, cet appareil pourrait savoir en temps réel tout ce dont parlent toutes les conversations.
Yep.
Donc on doit faire attention à ce qu'on dit.
Exactly, everything is listened to.
On écoute tout, bien sûr qu'il faut faire attention, on écoute tout.
Have a good day.
Merci. Alors, expliquez-moi en termes de sécurité ou de confidentialité, pourquoi c'est important que ça soit français? Parce que sinon, beaucoup des données, même données sensibles cryptées sur les réseaux, sont dans des data centers aux États-Unis ou en Chine.
Alors en fait, il y a une loi américaine qu'on appelle le Patriot Act, mais les Chinois ont la même, les Indiens ont la même, qui leur permet, pour des raisons de sécurité nationale, d'avoir accès ou de demander l'accès aux données qui sont présentes sur des dispositifs gérés par des entreprises américaines, si on prend le cas des Américains. Il n'y a pas très longtemps, il y a certains de vos confrères journalistes qui se sont retrouvés avec des interdictions d'accès sur le cloud de Google parce que les documents qui étaient stockés ne correspondaient pas à la charte de Google.
C'est-à-dire que Google savait ce que les journalistes, sur quoi ils enquêtaient, par exemple.
Exactement. Et c'est pour ça que ça avait été arrêté, parce qu'ils ont considéré qu'ils n'étaient pas dans la charte d'usage des services.
C'est quand même assez costaud comme idée. Voilà, que la confidentialité d'une enquête journalistique puisse être compromise, ou en tout cas soit complètement transparente pour celui qui fait transiter les mails ou sa boîte ou son compte Gmail.
Exactement. C'est malheureusement assez peu connu, même si on en parle quand même beaucoup dans le milieu de la cyber. C'est peu connu par les utilisateurs parce que c'est très pratique à utiliser. On ne se pose pas de questions, ça fonctionne constamment.
C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils sont à l'abri derrière leur petit pseudo, mais en fait, ils sont à poil sur Internet, si vous me passez l'expression.
Ils sont totalement à poil sur Internet. Voilà. Il y a plein de gens que vous allez voir qui vont dire « Écoutez, on est là, mais on ne peut pas vous dire ce qu'on fait. Voilà. » Ça vous dit une part de ce qu'ils font.
Ça, quand je pose des questions, on ne me répond pas trop, généralement. C'est normal, vous pensez?
No comment. Société Tracip, on est une société française qui est spécialisée dans le domaine de l'investigation numérique.
On ne peut pas vraiment parler de ce qu'on fait dans ce milieu.
Ah bon? Alors, en fait, on a des outils qui permettent, quand vous effacez quelque chose de votre ordinateur ou de votre téléphone, vous les effacez, elles ne sont plus visibles par vous, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus stockées quelque part dans le téléphone d'ordinateur.
Elles ne sont pas vraiment effacées, quoi. Ça peut se retrouver.
Tant que le support physique est là, on a toujours des moyens, des solutions qui existent pour aller récupérer les informations.
Un nouvel algorithme d'intelligence artificielle dédié à la reconnaissance faciale.
Bonjour, oui, tout à fait, groupe TEB. Et là, on est sur Millipol où on présente la reconnaissance faciale. L'idée, c'est de pouvoir concaténer l'ensemble des visages qui sont pris par les caméras de vidéoprotection.
Comme les caméras là, qu'on voit sur votre stand, il y a tout un tas d'écrans avec des vidéos dans tous les sens. Là, je me vois de dos, je me vois aussi de profil.
Je suis détecté,
c'est-à-dire que je suis...
Individu, vous êtes entouré parce que le logiciel a détecté que c'était un individu et pas une plante verte, pas un véhicule.
Ça, c'est ce qui est possible aujourd'hui. Si on fait un peu de prospective dans 10 ans, qu'est-ce qui sera possible? Qu'est-ce qui sera installé dans nos villes et...
Il y a une notion de prédiction dans l'intelligence artificielle. Un exemple, c'est le même visage qui passe régulièrement au même endroit et avec peut-être des voitures différentes, des plaques d'immatriculation différentes.
Ça peut être un terroriste qui fait un repérage.
Voilà. Alors, à Nice, par exemple, l'intelligence artificielle aurait pu détecter un camion sur une voie interdite aux camions, par exemple. Donc là, c'est une prédiction.
Parce que oui, je ne me souviens plus du nom du terroriste de Nice. Mais il était passé à plusieurs reprises, les jours d'avant, pour faire des repérages.
C'est ça.
Et je me permets, comme vous parlez de Nice, de relever qu'après les attentats à Paris, le maire de Nice, Christian Estrosi, a dit que ça ne serait pas arrivé à Nice, puisqu'à Nice, il y a des caméras de vidéosurveillance un peu partout.
Maintenant, du coup, il y a un véritable intérêt d'avoir des caméras partout, comme une ville comme Nice. C'est qu'après, avec de l'association d'intelligence artificielle, ils ont les yeux partout.
Et alors là, c'est vachement rassurant pour le terrorisme, mais ça m'inquiète un peu ce que vous me dites. je pense tout de suite, j'ai la petite lumière qui s'allume dans un coin qui dit Big Brother. Des caméras partout, surveillance, un logiciel qui va déterminer dans tous les comportements les conduites potentiellement à risque.
Alors, si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas de quoi s'inquiéter.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Aujourd'hui, grâce à notre réseau de caméras,
Christian Estrosi,
avec 999 caméras, une caméra pour 343 habitants,
19 janvier 2015.
À Paris, il y en a une pour 1532. Et je suis à peu près convaincu que si Paris avait été équipé du même réseau que le nôtre, les frères Kouachi n'auraient pas passé trois carrefours sans être neutralisés et interpellés.
Le camion remonte la promenade des Anglais à vive allure sur 2 kilomètres.
Si Paris avait été équipé du même réseau que le nôtre, les frères Kouachi n'auraient pas passé trois carrefours sans être neutralisé et interpellé.
Donc le matériel Protecop propose du matériel de training pour parfaire ses techniques, ses acuités et savoir adapter le matériel au terrain. Donc exercice de la roue.
Tu préfères expliquer ?
Le but est de monter en stress.
Je le fais comme tu veux, Jacques.
Vous voulez quoi ?
Je peux vous m'expliquer la société ?
Bon, donc, Devrubert, on est avant tout des spécialistes dans la sécurité. On a 14 ans d'existence, on va faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, avec un ADN qui est la géolocalisation, en temps réel.
Parce que moi, ce que je remarque dans ce salon Minipol, je suis venu les précédentes éditions, il y a de moins en moins d'instruments contondants, perforants et percutifs, et de plus en plus de logiciels qui travaillent avec de l'intelligence artificielle ou avec les technologies de l'information en général.
Oui, évidemment, le numérique prend le pas, évidemment, dans les enquêtes et dans la sécurité, sur les méthodes anciennes, etc.
Donc, oui, parce que vous, ça vous remplace les filatures à l'ancienne, ça.
Par exemple, absolument, on a des applications qui permettent les policiers de faire des filatures à distance, par des systèmes d'alerte, de déplacement, ou choses comme ça.
Mais c'est vrai que nos téléphones portables sont devenus des formidables ressources de renseignement et de repérage, de géolocalisation, comme ça c'est votre travail. C'est une source d'information à exploiter.
Ah, tout à fait, oui. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'imaginait pas qu'on ferait ce qu'on fait aujourd'hui.
Il y a aussi l'avènement des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sur lesquels rien n'est contrôlé aujourd'hui quasiment, et qui sont une mine d'or pour les sociétés, les logiciels, qui recueillent, traitent, agrègent, décomposent, reconnectent. Donc ça, je pense que ce qu'on va voir quand même de plus alertant, c'est quand même sur les réseaux sociaux que ça va se passer, à mon avis. Ça interpelle beaucoup. L'autre chose qui évolue beaucoup, qui m'interpelle moi beaucoup, c'est les nouvelles bornes connectées dans les maisons.
Google propose ça en ce moment. Il y a des pubs.
Google propose ça, Amazon propose ça. Ça va arriver en France là pour Noël. Ça va être la déferlante. Vous parlez à la borne, qui vous écoute, qui vous répond, qui soit capable d'analyser vos questions, d'écouter l'ambiance, ce que demandent vos enfants, ce qu'ils mangent au petit déjeuner. Tout ce qui se passe chez vous va remonter sur les serveurs américains. Tout ça va remonter, tout ça va être traité. Enfin, on voit vite que le niveau d'intrusion, c'est énorme. Quoi. C'est énorme.
C'est-à-dire que c'est des informations qu'on ne donnerait pas à un gouvernement et là qu'on donne librement à une compagnie.
Même pas à un ami. C'est les conversations de la famille, c'est troublant. C'est troublant.
Mais je trouve ça intéressant que vous souciez de ça aussi, que ça vous interpelle aussi, en tant que citoyen même.
Il y a un proverbe pour ça. Hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On est exactement là quand même.
C'est-à-dire que ça va plus loin que ce que font les États avec des normes et des garanties légales. Là, c'est à plus grande échelle et pour tout le monde.
À plus grande échelle, pour tout le monde, et sans aucun contrôle. Sans aucun contrôle.
Là, je crois que c'est la fin du salon. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, on se revoit dans 2 ans. On va voir si on sera tous surveillés ou pas. Merci.
Bonne journée,
au revoir.
When you post a stupid question on your Twitter.
When your Facebook friends just wish your life would end.
Worry not.
We are here.
We can help.
Make it clear
that Google is your friend.
It's time to tell my dog about sex.
Google is your friend, no matter what you need.
When you don't know where else to go.
When search will do the deed. Google is your friend.
Just ask and you'll receive.
With Google by your side, there's not a thing you can't achieve.
Alors, Give, toujours rien à te reprocher ? On peut augmenter un peu le niveau d'intrusion ?
Moi, j'avoue être revenu un peu flippé de chez les pros du renseignement et de la sécurité de voir qu'ils s'inquiètent, eux, de l'intrusion sans contrôle des multinationales numériques dans le quotidien et l'intimité des citoyens. La Stasi est allemande en arrivée, Facebook l'a fait.
Attention donc, les pavés du paradis numérique sont glissants. Et maintenant, bon pied, bon œil, on part au cinéma avec Charlotte Perry.
Au cinéma de Cesson-Sévigné, dans la banlieue de Rennes. C'est en plein cœur de la Bretagne agro-industrielle. Et on va aller rencontrer Pierre Pézra, le réalisateur du documentaire Les Sentinelles. Un film qui retrace la lutte des ouvriers de l'amiante et celle des travailleurs agricoles intoxiqués aux pesticides. Et à l'heure où le parquet a requis un non-lieu dans le dossier de l'amiante et où l'Union européenne tergiverse sur l'interdiction du glyphosate, dont le sort d'ailleurs doit être examiné lundi en comité d'appel, un herbicide pourtant classé cancérigène probable par l'OMS en 2015, eh bien le combat judiciaire de ces lanceurs d'alerte contre l'impunité des industriels prend tout son sens.
Les crimes industriels commis à l'aide de cancérogènes sont des crimes parfaits.
Allez vous installer où vous voulez, j'éclaire un peu plus.
On peut se mettre là, non mais là c'est pas terrible.
Très bien. Commence dans combien de temps le film ?
Dans presque 2 heures. Donc c'est bien, on va pouvoir attendre en discutant.
On est donc dans la salle. Du cinéma à Cesson-Sévigné, dans la banlieue de Rennes. La salle est entièrement vide. Et que nous, en attendant que le film soit projeté tout à l'heure, 20h30. Je peux vous demander de vous présenter.
Je m'appelle Pierre Pézra. Je suis le fils d'Henri Pézra, qui est un personnage central du film que j'ai réalisé. Et qui était un scientifique qui a aidé les victimes de l'amiante et des pesticides à se défendre. Et quoi d'autre, j'ai passé ma carrière globalement à la télévision, dans laquelle j'ai fait à peu près tous les métiers. Et puis sur la fin de ma carrière, je suis même devenu responsable de service. On m'appelait chef des fois. voilà, et puis c'est mon premier film.
Qui s'appelle Les Sentinelles, et qui fait le lien en fait entre le combat des victimes de l'amiante et celle des pesticides. Tous vos personnages sont malades, ils ont été intoxiqués par les produits, même si on ne voit pas vraiment, parce que le film est quand même plus axé sur le combat pour la justice que sur la souffrance et la maladie. Mais ils sont tous touchés, ils dénoncent tous ces scandales sanitaires, et ça en sens qu'ils sont des sentinelles en fait. Comment est-ce que ça vous est venu l'idée de faire le rapprochement entre les victimes de l'amiante et les victimes des pesticides, donc l'idée de faire ce film en fait ?
Bien après le décès de mon père, en 2009, s'est créée une association qui porte son nom, l'association Henri Pézra. Et à la première assemblée générale de cette association, j'ai rencontré Josette Rouder, qui est une ouvrière d'Amisol, et puis Jean-Marie Birbès, qui sont des personnes qui m'ont fortement impressionné.
Donc Josette Rouder, elle est déléguée syndicale CGT à Amisol Clermont-Ferrand, et Jean-Marie Birbès, il est délégué syndical CGT à Eternit, donc dans une usine dans le Tarn.
Et puis il y a eu aussi Paul François, que j'ai rencontré un petit peu plus tard, qui lui avait rencontré mon père et qui l'a aidé à faire reconnaître son intoxication en maladie professionnelle, puis plus tard qui lui a suggéré l'idée d'attaquer Monsanto. Et donc Paul François est arrivé à l'association Henri Pézra, et donc il dit dans le film d'ailleurs, il est arrivé au milieu d'une assemblée où il y avait beaucoup de gens de gauche, de CGT, il dit on cassait du patron, alors que lui-même était un petit patron, il avait 2 salariés.
Donc il est agriculteur, exploitant agricole.
Et qu'il est agriculteur, bien entendu. Et là je m'aperçois finalement que j'ai des points communs avec vous, parce que, au nom du profit, finalement, on a subi la même intoxication et on est dans le même bateau, en quelque sorte. Mais j'ai trouvé que de dire ça au milieu de cette assemblée, c'était quelque chose qui montrait qu'il avait beaucoup de courage, quoi. Et j'ai finalement terminé le film avec cette histoire des ouvriers de la coopérative Triskalia qui se sont fait empoisonner et qui me permettait d'avoir 2 personnages principaux dans l'amiante et 2 personnages principaux dans les pesticides.
La seule différence avec les ouvriers de Triskalia, c'est qu'eux n'ont jamais rencontré votre père.
C'est ça. Mais là, vous avez parlé du titre du film, Les Sentinelles. Mon père avait évoqué ce titre dans une interview à France Culture en l'an 2000. Ce qu'il disait, c'était que les ouvriers en milieu de travail étaient les sentinelles du milieu environnemental. Ce qu'il voulait dire, c'était que c'était eux qui prenaient les premiers empoisonnements, les premières intoxications, mais que derrière eux, en fait, c'était la société civile qui finalement allait subir ces mêmes empoisonnements.
Les ouvriers en milieu de travail sont en fait, au niveau des risques, des sentinelles du milieu environnemental.
Alors, à l'époque, le terme de lanceur d'alerte n'était pas aussi à la mode ou aussi employé, mais sentinelle, lanceur d'alerte, c'est pareil. Et donc, les ouvriers de Triskalia, pour en revenir à eux, sont totalement symboliques de ceux auxquels pensait mon père quand il disait qu'ils sont des sentinelles. Parce que derrière l'intoxication des ouvriers de Triskalia, il y a l'intoxication des céréales, puis des cochons qui vont manger ces aliments à base de ces céréales pourries par les pesticides, puis des consommateurs qui vont manger ces cochons. Il y avait des cochons qui ont mangé un peu trop de ces céréales, ils en sont morts, mais il y en a qui n'en sont pas morts. Ils étaient juste malades. Et malgré tout, on en a fait de la viande, du jambon et puis des côtes de porc que les consommateurs ont mangé.
L'histoire de l'intoxication des salariés de la coopérative bretonne de Nutréa Triskalia commence à la fin de l'été 2008.
Ce qui s'est passé dans cette coopérative, c'est que la direction a coupé les ventilos qu'on voit de derrière la benne bleue là-bas. Il y a un ventilo qui souffle l'air frais dans les céréales pour éviter qu'elles chauffent. Et la coopérative, pour faire des économies, ont décidé de couper ces ventilos. Les céréales ont commencé à fermenter, à chauffer. Il y a eu une prolifération d'insectes et au bout de quelques mois, tout s'est pris en masse et les 120 000 tonnes de céréales sont devenues complètement pourries et charançonnées. Il y avait des cratères à certains endroits, c'est parce que les céréales avaient fondu, c'était du jus qui coulait, c'était en putréfaction totale. Dès qu'on a eu un doute, on a averti la direction. Ils n'ont pas bougé. Au final, quand ils ont voulu extraire ces céréales, c'était encore pire qu'on pensait. Et du coup, ils ont traité ces céréales avec des produits qui étaient, depuis une quinzaine d'années, entreposés en dessous les fêtières là-bas. Depuis 2001, ils étaient interdits à la vente et depuis 2007, interdits d'utilisation. Et on était en 2009 quand ils ont utilisé ces produits.
C'est bon, des fois, ça allait dans les yeux, beau protéger les yeux. Ça, la poussière allait dans les yeux, dans le nez, partout quoi.
Malgré le procès verbal d'un inspecteur du travail constatant l'utilisation d'un pesticide interdit, la production et la livraison d'aliments pour bétail ne cessent pas. Aucun service de l'État ne contrôle ni le stock de céréales, ni la marchandise livrée aux éleveurs.
Alors pour dire un mot sur votre père, pour ceux qui ne seraient pas familiers, donc c'est Henri Pézra, c'était un chercheur toxicologue au CNRS et qui, dès les années 70, a alerté sur les dangers de l'amiante.
Oui, c'est ça, mais il faut dire qu'il travaillait à Jussieu, qui était floqué à l'amiante. Donc le flocage, c'est la projection d'amiante, de fibres d'amiante sur les murs pour ses propriétés anti-incendie. Et donc cette découverte d'amiante qui tombait du plafond ou des murs sur les plans de travail des chercheurs, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui tombe? Et mon père, parmi d'autres, s'est très rapidement compte que c'était de l'amiante. Et du coup, il a mis son nez dans la littérature qui existait déjà, puisqu'il y avait eu des études qui avaient été faites. Le premier rapport sur l'amiante est 1906. D'un inspecteur du travail en Normandie. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un très grave danger à être simplement là, à Jussieu, couvert d'amiante. Et donc, à partir de là, il a décidé d'orienter ses recherches, les recherches de son laboratoire, sur les mécanismes de toxicité de l'amiante. Et il a voulu aller à la rencontre des travailleurs de l'amiante, parce qu'il a pensé que, eux étant à Jussieu intoxiqués, ils devaient l'être bien moins que ceux qui travaillaient à l'amiante. Et c'est comme ça qu'il est allé à Clermont-Ferrand, où il a rencontré Josette Roudert et bien d'autres, qu'il est allé à Condé-sur-Noireau, dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, où il y avait l'usine Ferrodo, où il y a je ne sais pas combien de victimes de l'amiante, c'est une hécatombe là-bas, et qu'il a, d'une certaine façon, transformé ses convictions politiques, son combat politique, qui était un combat de gauche, en mettant ses capacités, ses connaissances scientifiques au service des travailleurs qu'il voulait d'abord défendre. Quelle est la valeur de la santé d'un travailleur? C'est quelque chose qui est éminemment politique. Et il s'était heurté à des syndicalistes qu'il avait quasiment virés du site parce que il lui disait mais arrêtez, vous allez faire fermer la mine si vous continuez. Si vous continuez à nous raconter ce que vous dites, eh bien nous allons perdre notre emploi. Donc il est hors de question que vous continuez. Il s'était fait virer. C'était quand même extrêmement difficile. Il se retrouvait évidemment face au patron de l'usine qui empoisonnait les ouvriers. Il se retrouvait aussi face aux ouvriers qui ne voulaient pas perdre leur emploi. Donc c'est pour ça que quand on déroule ce qu'il y a derrière la maladie professionnelle et le chantage à l'emploi qui est pratiqué par les employeurs, mais aussi le propre déni de ceux qui se font empoisonner parce qu'ils savent qu'en arrière-plan, il y a la perte de l'emploi. L'emploi, d'ailleurs, étant le mot magique qui permet à tout le monde de faire n'importe quoi. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut choisir entre l'emploi et la santé, il faut un emploi avec la santé. Josette dit, et c'est pas dans le film, nous on avait les emplois, mais le cercueil qui va avec. Je trouve que c'est assez bien résumé la façon dont ça se passait et dont aujourd'hui en France, ça continue à se passer, par exemple à l'usine Triskalia en Bretagne, mais aussi dans bien d'autres endroits.
Il y a quand même quelque chose qui est commun, c'est qu'à un moment donné, il y a des industriels qui, au nom du profit, sont capables de mettre la vie de personnes en danger. On fait du profit, et au nom de ce profit, que ce soit agriculteur, docker, vous, salarié dans l'amiante, au nom de ce profit, on est capable de tuer.
Oh, mon bon Dieu, mon collègue, mon arrivée, non qu'un pègre, m'a dit qu'être un des monnaies, m'a pas dit, va te mal feignant. Mais si la cause d'une usine, on te rit d'espoir 40 ans, le patron m'y faisait la mine, des yeux remi pitchou en pain, m'aura cagé si j'y dépauve, on travaillera pas compté, on travaillera pas compté.
Et alors, pour en venir donc au combat sur l'amiante, il a été en partie gagné, puisque l'amiante a été interdite en 97. Dans les années 2000, il y a eu un fonds d'indemnisation qui a été créé pour les victimes. Et pourtant, c'est pas ça l'âme du combat. Il faut que les victimes soient indemnisées, évidemment, mais c'est pas ça l'âme du combat.
Ben, l'âme du combat, c'est qu'il faut arrêter d'empoisonner les ouvriers, pour citer Josette qui dit ça dans le film. Et arrêter d'empoisonner les ouvriers, c'est pas seulement pour l'amiante. Aujourd'hui, les victimes de l'amiante attendent toujours un procès au pénal. Elles n'attendent pas le procès au pénal pour voir les industriels qui les ont empoisonnés, qui ont aujourd'hui 80, 85 ans, etc., finir leur jour en prison. C'est pas ça. Elles attendent ce procès pour que soit donné le signal qu'on ne peut pas empoisonner les ouvriers, les paysans, les travailleurs d'une façon générale, de façon totalement impunie. Il faut faire cesser l'impunité de ces crimes industriels, parce qu'on parle bien de crimes industriels. Et dans le cas de l'amiante, cette volonté de réprimer n'a pas été exprimée, et donc, en quelque sorte, ceux qui font travailler les gens en les exposant, eh bien, ils peuvent continuer en toute impunité, puisque cet interdit d'empoisonner les gens n'a pas été exprimé par le droit pénal.
Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'amiante, c'est à peu près 100 000 morts. Il y a une étude de l'Institut national de veille sanitaire qui dit que d'ici à 2050, ce sera encore 100 000 morts à peu près. Et pour ça, il n'y a pas de responsable.
Donc c'est en quelque sorte terrible. Et ça veut dire, par exemple, sur l'affaire Eternite. Il n'est pas question de dire c'est telle personne en telle année qui était responsable de telle usine qu'il faut envoyer au tribunal. Je veux dire, tous les responsables des usines dans la période à partir du décret, on va dire 77 jusqu'à 97, pendant 20 ans, tous les responsables des usines Eternite doivent être mis en examen et passer au pénal. Ça ne veut pas dire qu'on va les envoyer en prison. Ça veut dire qu'ils doivent répondre de leurs actes. La confrontation doit avoir lieu et les victimes de l'amiante doivent pouvoir les entendre. Et ça donnerait peut-être un signal d'avertissement pour tous les empoisonnements qui existent aujourd'hui, Il y a des cas d'empoisonnement et de maladies qui se déclarent partout en France. Il faut arriver à ce que les crimes industriels cessent. Et pour arriver à ce que les crimes industriels cessent, il faut qu'il y en ait qui soient punis. Et s'ils ne sont pas punis et qu'ils ne s'expliquent pas, eh ben ça pourrait continuer.
64, c'est quoi ?
Le nombre de 70.
C'est bien ?
C'est dans la moyenne.
Oh là là. Des retardataires.
Un quart.
Ça sont combien maintenant ?
69.
Bonsoir. C'est parfait, merci bien. Voilà votre ticket. Merci. 5, c'est parfait, je vous remercie. Voilà votre ticket. C'est parfait, je vous remercie. Non, mais c'est bon. Voilà pour vous.
Merci.
Bon film.
Alors, comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
Ouais, Pékin.
Tiens, voilà, bon film.
Alors, je vous ai pas demandé de vous présenter encore.
Alors moi, je m'appelle Serge Le Quéau et donc je suis militant syndical à l'Union syndicale solidaire de Bretagne. Et je suis le défenseur des salariés de l'entreprise Nutriatriscalia qui ont été gravement intoxiqués par des pesticides donc en 2009 et 2010. Ils ont fait en sorte que finalement il y ait une prise de conscience collective, si on veut, des problèmes de santé publique que posait l'utilisation de pesticides. Quelque part, par leur engagement, par la médiatisation de leur combat, ils sont devenus des lanceurs d'alerte.
Eux, les ouvriers de Triskelia, donc ils ont été victimes d'une maladie qui était peu connue à l'époque.
Ils sont atteints d'hypersensibilité aux produits chimiques multiples. Et donc, ils ont été intoxiqués par une molécule qui s'appelle le dichlorvos, un insecticide extrêmement puissant, qui a été d'ailleurs utilisé dans les camps de concentration pour gazer les gens. Une fois qu'on est intoxiqué par cette molécule-là, c'est une intoxication irréversible, parce que la molécule migre du sang dans la moelle épinière et ensuite se loge dans le cerveau. Et on ne peut pas s'en débarrasser, donc ils seront malades à vie. Et aujourd'hui, donc, ils sont dans la capacité de travailler parce que dès qu'ils sont mis en contact avec des produits chimiques, ils ont des réactions extrêmement violentes, des saignements de nez, des douleurs abdominales, des douleurs musculaires. Ils ne peuvent plus travailler.
Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Pierre Tesra, qui est donc le réalisateur du film que vous avez vu tout à l'heure. Et pour vous mettre dans l'ambiance, j'ai mis à gauche une affiche là, qui va vous inciter à acheter des produits dont la marque est notée en dessous. Hein. N'oubliez pas.
Bonsoir, merci d'être là et puis je suis très ravi que vous soyez nombreux. C'est pas tout le temps le cas et donc la Bretagne fait honneur à sa réputation et ça fait plaisir. Je serai amené à répondre à vos questions tout à l'heure avec Jean-François Delhomme qui est là-bas, qui est médecin, et Serge Le Quéau qui est là-bas et qui est membre de Solidaire et qui a aidé les ouvriers de la coopérative de Triskelia à se bagarrer contre leur employeur. Et la coopérative de Triskelia, l'histoire de cette coopérative, en tout cas de cet empoisonnement, est évoquée à la fin du film. Je vous souhaite une bonne projection.
On n'a pas d'autre choix que de se battre. De toute manière, c'est un combat qui doit être mené. On n'a plus le droit de baisser les bras pour ceux qui arrivent après nous. C'est pas normal qu'on est en train d'empoisonner l'humanité et tous ces salauds.
L'attitude des firmes vis-à-vis des gens malades est tellement scandaleuse. Ils savent très bien que c'est les produits qu'ils nous ont donnés pouvaient conduire à des situations catastrophiques et voire à la mort. Mais leur attitude maintenant, ils n'ont aucun regret, ils ont rien, ils s'en fichent, mérite un procès. Et ça mérite le combat qu'on mène.
Et c'est donc lundi que le sort du glyphosate, le puissant herbicide de Monsanto, doit être examiné par l'Union européenne. Et oh, surprise, il y a quelques jours à peine, une étude n'établissant aucun lien entre ce produit et le développement de pathologies cancéreuses est soudainement réapparue. Cela s'appelle la stratégie du doute et c'est une vieille technique des industriels pour instiller le doute justement dans les esprits. Tout ça est très bien expliqué aussi dans le documentaire de Pierre Pesra.
C'était comme un bruit qui court. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit. Que le bruit court, hashtag comme un bruit. Et juste après les infos, une émission exceptionnelle. Retrouvez Denis Chessou qui fête les 30 ans de La Tulu, mon petit loup. Une émission en public jusqu'à 18h dans le cadre de la 6e édition de Radio France, Faites le livre. C'est aujourd'hui et demain, toute la journée, des rencontres, des expos et des émissions en public. Venez à la maison de la radio, c'est ouvert, lire des livres. Toutes les infos sont sur le site de franceinter.fr et nous on se retrouve samedi prochain à 16h.